et qui est la cause du plus de conflits dans le monde, Jérusalem, hein, ville de paix. Voilà, donc c'est assez contradictoire, paradoxal. Hein. Jésus est prince de paix, mais il a dit, je ne suis pas venu apporter de la paix sur la terre, mais l'épée. Hein. Et puis, Jérusalem, ville de paix, quand on voit l'actualité, ça semble être l'opposé. Donc c'est un mot fort, mais en même temps un mot plein de paradoxes. Quoi. Et dans les temps à venir, je crois que vraiment le Seigneur veut mettre l'accent sur, sur cette caractéristique du royaume, parce qu'il veut une paix grandissante dans son Église, dans son peuple, alors que dans le monde, ça va être l'inverse. Il ne faut pas se voiler la face, ça va vraiment, vraiment être l'inverse. Hein. Alors, on va essayer, avec vos Bibles, si vous avez vos Bibles, de creuser un peu ce que c'est que la paix. Le fondement de la paix, puis je vais vous poser des questions, on va faire des cours de vacances, de révision de vacances, tout ça. Le fondement de la paix, c'est quoi? Le fondement dans nos vies chrétiennes. Le fondement. Pourquoi on peut être en paix, le fondement initial? Non. Le fondement de la paix. Pourquoi on peut être nous en paix? Ben oui, c'est la croix. Hein, le fondement de la croix, c'est la croix. Hein. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et inversement, il n'y a pas de paix pour les méchants. Donc le fondement dans nos vies, c'est la croix. Bon, ok, on est a priori tous chrétiens ici, donc on a tous ce fondement-là. Alors comment ça se fait qu'on ne la vive pas trop dans la vie quotidienne? Parce que c'est très bien le dimanche matin, avec la louange, avec David, tout ça, on est dans la paix, super. Arrivé à la maison, zut, Internet ne marche pas, etc., etc. Et puis la paix, elle est un peu volée, quoi. Alors comment ça se fait? Qu'est-ce qui peut donner la paix? On va voir qu'est-ce qui donne la paix et qu'est-ce qui nous vole la paix. Parce que la paix, c'est un enjeu. Je vous dis, le royaume de Dieu, c'est la paix, la justice, la joie, par le Saint-Esprit. Donc c'est un élément essentiel du royaume, et c'est un enjeu aussi. Et c'est aussi une arme. J'aime bien ce verset qui dit « Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds ». C'est une paix qui est une arme, une paix qui écrase l'ennemi, vous voyez. Ce n'est pas la paix flottante, ou des petits oiseaux, tout va bien. Non, c'est une paix qui est dense aussi. Ce n'est pas la paix zen des techniques orientales. Ce n'est pas la paix vide, c'est une paix pleine, une paix de vie, une paix liée à la joie aussi. Mais c'est une paix qui grandit aussi. Le royaume, il s'étend, il s'attend, il s'accroît. Et vous avez cette paix qui doit grandir. Donc, nous, en tant que peuple de Dieu, on a à grandir dans la paix. La paix doit grandir en nous. Alors, qu'est-ce qui donne la paix? Ce qui donne la paix, il y a beaucoup de choses qui donnent la paix. Et j'en ai noté plusieurs. Je crois que vous avez eu un message la semaine dernière sur la foi. Hein. Donc, la foi, c'est bien sûr primordial. Hein. Hébreux 4. Et le repos de la foi, repos, ça va avec la paix, hein, le repos. Donc la foi, c'est effectivement, c'est le fondamental pour avoir la paix. Et donc je vous donne les références. C'est des versets, je crois que c'est ces versets-là, comment dire, personnellement, c'est des versets qui me nourrissent, vous voyez, que c'est les paroles, les versets, il y a des versets qu'on serre dans son cœur, on les rumine, ils font partie du disque dur, ils sont là, et puis on les mâche, Et puis, dans les nuits d'insomnie, on les répète. Et puis, quand ça va mal, on les dit. Et puis, vous voyez, c'est des versets qui sont des clés, quoi. Alors, je donne quelques clés que je peux vous dire. Alors, au niveau de la foi, à celui qui est ferme dans ses dispositions, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. Donc, Ésaïe 26, 3. Hein. À celui qui est ferme dans ses dispositions, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. Et Hébreux 4 nous dit, il y a un repos dans la foi. Bon, ça, je pense que c'est des choses assez connues, je ne vais pas trop m'étendre. Le repos de la foi. La foi, c'est ce qui nous procure le repos. Mais il n'y a pas que la foi. Il y a aussi autre chose. Il y a la connaissance, l'amour et la pratique de la parole. Et ça, c'est vraiment important. Il y a des versets qui nous disent ça, qui disent, il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi. Et la suite du verset est encore plus formidable. Il ne leur arrive aucun malheur. Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi. Donc on répète, il y a la paix liée à la foi, ça c'est primordial, hein, et la paix liée à l'amour de la parole et à la pratique de la parole. Si tu étais attentif à mes commandements, dit l'Éternel dans Ésaïe 48, 18, si tu étais attentif à mes commandements, ta paix serait comme un fleuve. Donc il y a aimer la parole et la pratiquer. Et il y a une paix qui vient avec ça. C'est vraiment... Donc, deuxième chose, c'est la parole. Pratique et amour de la parole. Lire la parole, bien sûr, et la serrer dans notre cœur et la pratiquer. Et il y a une paix qui grandit avec ça. Ensuite, une autre chose qui donne la paix, c'est ce qu'on a fait ce matin, demeurer dans la présence de Dieu en communion avec lui. Et j'aime beaucoup ce nouveau chant de David, demeurer. Et pas que le dimanche matin. On a la possibilité de demeurer tout le temps dans la présence de Dieu. Je crois vraiment dans les temps à venir, c'est quelque chose qui va grandir dans nos vies. Il y a les deux royaumes, ils sont côte à côte, le royaume de Dieu et le royaume des ténèbres. Et on peut demeurer dans le royaume de Dieu tout le temps. Ça fait partie de notre héritage. Ce n'est pas que le dimanche matin ou que dans les réunions de prière ou que dans les temps de prière. C'est tout le temps. Dans n'importe quelle circonstance, on peut demeurer dans cette paix. On peut demeurer dans la présence de Dieu. Et ça veut dire donc demeurer attaché au CEP, demeurer en communion. Et puis, une autre chose qui donne la paix, quatrième point, c'est connaître Dieu en profondeur. Connaître qui il est, connaître ses voies, connaître ses projets. Et ça donne beaucoup de paix. Par exemple, imaginez, vous traversez une période de tunnel. Tout est noir, vous ne voyez rien, ça arrive dans la vie chrétienne. Ben, vous savez, vous connaissez votre Dieu, vous savez qu'à un moment donné, vous verrez la lumière. Et vous avez la paix, même dans le tunnel, vous ne voyez rien du tout, parce que vous savez qu'il y avait la lumière. Celui qui manque de lumière, qui se confie en l'Éternel, il aura la lumière. Vous le savez. Et puis, une autre chose aussi, il y a un verset formidable. Alors moi, je sais, c'est un verset fabuleux. Dieu mène tout à bonne fin pour moi. C'est psaume 57. Il mène tout à bonne fin pour moi. On peut être dans les pires situations, il y a une bonne solution. Et d'ailleurs, ça nous fait comprendre pourquoi on n'aime pas les films qui finissent mal. Vous savez pourquoi ? Parce que à l'intérieur de nous, il y a ce plan de Dieu. Ça doit bien finir. La vie de l'humanité, elle finit bien. Dieu mène tout à bonne fin pour moi. Dieu, c'est le Dieu des histoires qui finissent bien. Vous voyez, quand ça finit mal, c'est pas de Dieu. Il y a quelque chose qui ne va pas. D'ailleurs, moi, quand je vais voir un film, je me renseigne. Est-ce qu'il finit bien ? Est-ce qu'il y a des bonnes valeurs ? Mais il faut qu'il finisse bien. C'est très important. Et après, j'ai compris. Mais si, c'est ancré en nous. Dieu mène tout à bonne fin pour moi. C'est psaume 57, c'est vraiment ça, c'est quand on a l'impression que tout va mal. Non, Dieu mène tout à bonne fin pour moi. Voilà, ça c'est une parole, vraiment une promesse vraiment forte. Et puis, il y a quoi encore ? Oui, alors là, une autre, connaître, marcher dans la dépendance de Dieu. Oui, marcher dans la dépendance de Dieu, ça veut dire ne plus faire ces trucs à soi. Faire ces trucs à soi, c'est peut-être bien pour la chair, mais c'est zéro question paix. Donc, quand on fait les choses de Dieu, ce que le Père montre, comme Jésus faisait, je fais que ce que le Père me montre, il y a la paix. Bon, la chair, elle est complètement crucifiée, mais la source, c'est la paix. Alors, il y a un super verset pour ça. Alors là, c'est vraiment un verset fabuleux. Quand on a des choses à faire, quand on est troublé parce qu'on a plein de choses à faire, etc., il y a ce verset qui vous dit: tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis pour nous. Ésaïe 26, 12. Éternel, tu mets en nous la paix, car tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis pour nous. Ça, c'est un verset fabuleux. Tu mets en nous la paix, tout ce que nous faisons, c'est toi qui le fais. C'est Galates 2, 20, hein, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Mais bon, pour ça, il faut que le moi, il s'écrase. Et puis, c'est uniquement Dieu qui fait ce que Dieu nous montre. Et ainsi, il y a une paix qui coule. Mais il y a un prix à payer pour ça. Hein. Mais après, quel repos, quelle tranquillité. Ce que nous faisons, ce n'est pas nous, c'est Dieu qui le fait en nous. C'est le repos total, mais aussi la dépendance totale, hein, et les bondages totaux, comme disait Émilie, et bondage complet. Voilà. Donc, je répète. Ah oui, et dernière chose, ah oui, très, très, très importante, c'est connaître le Père. Pas connaître Dieu, voilà, Dieu, c'est connaître le Père. Et quand on connaît le Père, on sait qu'on est absolument gardé en lui. Et ces derniers temps, je relisais Jean 17. Jean 17, c'est la dernière parole que Jésus a adressée. C'est une prière au Père. Et il a dit: Père, garde en ton nom ce que tu m'as donné. Garde en ton nom. Et on sait que cette prière est exaucée, parce que le Père aime le Fils, et il l'exauce toujours. Et on sait qu'on est absolument gardé dans le Père. Et si vraiment, si on comprend, si on est en unité, si on comprend cette parole, on est absolument gardé. On est absolument en sécurité. Rien ne peut nous arriver en dehors de sa volonté. Il y a une très profonde sécurité quand on aime le Père. Donc je répète, tout ce qui nous donne la paix, mais il y a peut-être d'autres choses, hein, c'est bien sûr le repos de la foi, c'est le béaba, la confiance en Dieu, Hébreux 4, le repos, la sécurité de la foi. Deuxièmement, aimer et pratiquer la parole, obéir aux commandements de Dieu. Troisièmement, demeurer dans la présence de Dieu, en communion avec lui, et pas seulement dans les temps de prière, tout le temps. Quatrièmement, le connaître en profondeur, hein, connaître qui il est, ses voies, ses projets, comment il agit dans nos vies. Cinquièmement, marcher dans la dépendance de Dieu, Donc c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et connaître le Père, Jean 17. Il garde tous ses enfants parfaitement. Alors ça, c'est ce qui nous donne la paix. Maintenant, qu'est-ce qui nous vole la paix? Vous connaissez tous ce qui nous vole la paix. Alors dites-moi, qu'est-ce qui vole la paix? Donnez-moi des... les soucis, les soucis de la vie. Soucis de la vie. Alors normalement, on devrait... Ça vient très vite, les soucis. Hein. C'est fou, ça vous envahit. Et je crois qu'il y a une question de discipline. Cardinal Martin nous a dit au mois de mars, il faut, enfin, le Seigneur est en train de nous discipliner. Nous discipliner, ça veut dire quoi? Il y a un souci qui arrive, eh bien, on doit prendre position. La parole dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu, et la paix de Dieu gardera vos cœurs. Hein. Donc, c'est une question de discipline. On ne va pas se laisser envahir par ces mauvaises herbes que sont les soucis du monde. On refuse ces mauvaises herbes, on les arrache de nos cœurs, on dit, je me confie en toi. C'est une position à prendre. Là, je crois qu'il y a une question de discipline. Vraiment, vraiment discipline et de confession de la parole et de prendre position. Parce que les soucis, c'est comme les mauvaises herbes. Si on ne fait rien, ça va venir très, très vite. Hein. Ça va nous envahir très, très vite. Il faut sans arrêt, désherber les soucis. Et on les remet à prix de la croix. On ne les reprend pas tout de suite après, si possible. Etc. Mais ça, c'est vraiment, je crois qu'il y a une discipline et le Seigneur nous attend là. Disciplinons-nous. Et je le dis pour moi, hein, parce que les soucis... Mon Samuel, qu'est-ce qu'il fait dans les airs? Est-ce qu'il a bien pris son avion? En plus, c'est en ce moment, hein, il prend son avion, j'espère. Seigneur, je te dépose Samuel. Et tu reprends pas, hein, s'il te plaît. Et il faut qu'il soit demain vers 13h à Strasbourg. Voilà. Et jusque-là, la paix. Alors, c'est bien parce que j'avais le message à préparer, donc j'ai dû pratiquer à fond quand même. Voilà, donc on dépose les soucis. Donc il y a les soucis. Après, il y a quelque chose peut-être encore plus redoutable que les soucis. Ouais, je dirais la chair. Ah, la chair, c'est abominable cette chair. Elle est toujours en mouvement, toujours en agitation, toujours en trouble. Et dans la chair, il y a aussi, bon, il y a le découragement, mais il y a aussi les convoitises. Les convoitises, on convoite, on ne reçoit pas parce qu'on demande mal, mais on demande mal parce qu'on ne demande pas ce que Dieu veut. Enfin, vous voyez, c'est un schmilblick, cette chair, c'est abominable. Alors, je vais donner un petit témoignage. Dans la chair, faisant partie de la chair, il y a la timidité. Et moi, j'étais très, très, très timide, abominablement timide. Je dis ça pour les quelques timides qu'il peut y avoir. Très, très, très timide. Et parfois, il y a des accès, ça revient comme ça. Alors, c'était en pleine marche franco-suisse, là, timide. Un accès de timidité, tchouk, qui remonte. Et heureusement, bien-aimé Saint-Esprit, une parole de grâce, il dit... J'entends dans mon cœur une petite voix. Tu sais, la timidité, c'est une conscience de soi exacerbée. C'est une conscience du moi. Ton moi, il est mort. T'as pas été timide, il est mort. Ah, ça m'a libérée. Complètement libérée. Le moi, mort. C'est sa position crucifiée. Bon, il essaie sans arrêt de se déclouer, mais logiquement, il est crucifié, terminé, on n'en parle plus. Bon, ça, c'est comme les mauvaises herbes, il faut sans cesse y revenir. Mais c'est une formidable libération. Le moi... Il est crucifié, c'est sa position biblique à la croix, et puis ben voilà. C'est assez source de paix, réellement source de paix. Sinon, pareil, dans les relations avec les uns et les autres, la chair, elle nous met en pétard avec les uns et les autres. C'est, voilà, soyez en paix les uns avec les autres, hein, autant qu'il dépend de vous. Bon, là, c'est à travailler aussi, et il y a ce terrible combat avec la chair, mais il faut qu'on fasse, comme les mauvaises herbes, sans arrêt, sans arrêt. Et puis, alors, il y a une autre chose qui nous vole la paix. Et là, je vais peut-être m'étendre un peu plus. Voilà. Ah oui, il y a le doute, bien sûr. Hein. Le doute, c'est le contraire de la foi. Jacques insiste, celui qui doute, il est comme une mer agitée. Donc, quand on est dans le doute, on est agité, on perd complètement la paix. Et puis, il y a de terribles Hébreux 4. Hein, ils n'entreront pas dans mon repos. C'est assez terrible. Donc, le doute, ça, je ne m'étends pas. On va m'étendre plus sur quelque chose qu'à mon avis, on va devoir affronter de plus en plus. Et qui s'appelle, surtout quand on s'élargit comme en ce moment, ça s'appelle l'intimidation. Alors là, l'intimidation, je vais un peu m'étendre et je vais commencer par une petite histoire personnelle qui va vous montrer aussi quelles sont les tactiques de l'ennemi pour nous intimider. Les tactiques. Alors, ce sera un peu une histoire un peu amusante, mais à l'époque, pour moi, ça n'était pas du tout amusante. Bon, c'était la semaine avant la marche franco-suisse. Donc, il y a un enjeu. Hein, et je pense que l'ennemi connaissait l'enjeu et il a pris, à mon avis, chaque participant de la marche individuellement pour essayer de le bloquer. Par plein de raisons, de l'intimider. Donc, moi, j'avais vraiment à cœur, j'avais dit à Vito, je vais faire les 5 premiers jours. Voilà. Donc, je m'étais lancée là-dedans, et puis j'avais à cœur. Et là, les salles d'intimidation ont commencé, et même se sont bien développées. Alors, vous savez, vous connaissez, quand vous êtes sur l'autoroute, vous avez parfois, vous mettez une belle, un beau CD de louange, d'adoration, et ça ne vous est pas arrivé que d'un coup, boum, il y a FM 107.7 qui vous dit, hop, Il arrête la louange, l'adoration, tout ça. Il vous dit, il y a un bouchon dans 30 km. Et puis, ça vous a jamais arrivé dans, sur l'autoroute. Il y a une voie que vous n'avez pas du tout commandée, à une station que vous n'avez absolument pas demandée, et qui interrompt brutalement votre adoration, votre belle louange, ou tout ce que vous écoutez, pour vous mettre bassiner des infos pas possibles. Donc, l'intimidation, c'est pareil. Vous ne l'avez pas du tout demandée, celle-là, et elle vous arrive comme ça. Alors, moi, j'ai eu droit aux intimidations. Alors, vous allez peut-être rire, mais moi, ça m'a beaucoup intimidée. Tu t'es engagée pour 5 jours. Physiquement, tu sais ce que ça veut dire ? Ça, c'est la radio qui disait ça. Tu sais ce que ça veut dire, 5 jours d'affilée ? L'année dernière, tu as fait un jour par-ci, par-là. Tu te reposais entre-temps, tu reprenais des forces. 5 jours d'affilée, tu imagines ? Ensuite, tu t'es entraînée un peu à la marche ? Rien du tout. Rien du tout. Tu n'as pas eu le temps, tu t'es pas exercée. Ton corps, il est pas physiquement en forme, quoi. Tu as vu ça ? L'année dernière, tu te rappelles ? Tu étais malade, parce que tu avais trop d'efforts. Malade, mais alors vraiment malade, couchée, dans le noir, tout ça. Ça va faire pareil cette année, sûr. Et puis, tu dors en collectivité en plus, dortoir. Tu sais ce que c'est, pas de lit douillet, un petit matelas pneumatique qui risque de se dégonfler la nuit en plus. Et puis, collectivité, tu vois, tu vas te faire une nuit blanche. Alors, une nuit blanche, ça va, mais 2 nuits blanches, 3 nuits blanches, 4 nuits blanches, tu vas voir dans quel état tu vas être. Et puis, si t'es malade en Suisse, tu fais quoi, hein ? Qui va te rapatrier ? Tu vas bloquer tout le monde, tout ça. Et puis, ton mari, il a des problèmes de santé, tu vas pas laisser tout seul quand même. Et puis, ça devenait de l'angoisse. Ça devenait vraiment de l'angoisse. Et puis, ça devenait tellement angoisse que j'ai dû appeler SOS. Et les frères et sœurs, vous priez pour moi parce que ça ne va plus. Hein, ça vous submerge. Il y a des moments où il faut savoir dire je ne peux pas toute seule. Il faut vraiment qu'on m'aide là. Hein. Et puis, on a prié pour moi. Et ce qui a vraiment été la parole de libération, c'était un frère qui a prié pour moi. Il a un cœur de père. Il a posé la main. Il m'a dit, tu peux le faire. Et c'était le père qui me parlait. Il dit, tu peux le faire. La parole réma du père, c'est pour ça que le père, c'est fabuleux, quoi. Et puis j'ai pu le faire, effectivement. Et puis ça s'est bien passé, etc. Mais ce que je voudrais dire, comment agit l'ennemi dans l'intimidation ? D'abord, il vous dit des choses vraies. Ah oui, toujours, des choses vraies. Mais sans la dimension de foi, tu vois, des choses bassement vraies, quoi. Prosaïquement vraies. Deuxièmement, il vous rappelle à la figure tous vos échecs passés. T'as été malade, gna gna gna, t'as pas réussi ça, t'as pas réussi ci. Donc ça va se reproduire. C'est un peu la réincarnation perpétuelle avec lui. Les échecs anciens vont se répéter. Voilà, ça c'est ce qui aime bien vous rappeler. Vos échecs passés, et vous les remet à la figure. Et puis après, il grossit. Alors l'intimidation, c'est grossir les choses. Et ton matelas va se dégonfler, et puis ça va être terrible, et tu vas avoir des nuits blanches, plein de nuits blanches, plein de nuits blanches. Donc il grossit les choses, il vous menace avec ça, ça grossit. Et puis, il utilise les membres de la famille. Avec la culpabilité, tu vas laisser ton mari tout seul, etc. Et voilà, c'est souvent ces manières d'agir. Je répète, des choses vraies, négatives, rappel des échecs passés, ensuite grossir les événements à venir, il vous fait un scénario catastrophe monstrueux, et puis après, se servir des choses apparemment légitimes, la famille, etc., etc. Donc ça, c'est souvent des techniques qu'il fait, et à mon avis, on va y avoir droit. J'ai vraiment un cœur en prenant ce message, je dis, il faut vraiment qu'on parle d'intimidation parce qu'on va y avoir tous droit, vu les engagements qu'on est en train de prendre à côté. Alors surtout, d'une part, première chose, discerner l'intimidation. Ça, c'est important. Et heureusement, Saint-Esprit, si on est en communion avec Saint-Esprit, il va nous dire, hop, hop, stop, ça, c'est l'intimidation. Écoute pas. C'est radio intimidation, écoute pas. Mais il va vous le faire discerner. Si on est vraiment branché avec Saint-Esprit, il va vous aider à discerner ce qui n'est pas radio Saint-Esprit, ce qui est radio intimidation, vous voyez. Il va vous aider à le discerner. Et puis, deuxième chose, si ça dépasse vos forces, soyez humble et demandez de l'aide. Il y a vraiment des fois où vraiment il faut les frères et sœurs, quand on est trop submergé. Et on le sait, hein. Mais je veux dire, quand on marche vraiment, essayez d'être très, très près de Jésus, il ne va pas vous laisser tomber, il ne va pas vous laisser échouer, vous voyez. Il va tout mener à bonne fin, comme on disait, et il va vous faire gagner. Donc, vraiment, l'intimidation, ça, c'est quelque chose d'important. Enfin, bon, donc, je disais, est-ce qu'ils nous volent la paix, le doute, la chair, le moi, terrible, les inquiétudes du monde, l'intimidation, il y en a peut-être d'autres aussi. Hein. Et Dieu veut vraiment qu'on grandisse dans la paix. Et je me suis dit, mais est-ce qu'on aurait un exemple de quelqu'un dans la Bible, dans la parole, qui a été vraiment un homme de paix ? Parce que Dieu, non seulement il veut qu'on ait la paix en nous, mais il veut qu'on diffuse la paix, qu'on procure la paix. La parole dit, heureux, ceux qui procurent la paix sont appelés fils de Dieu. C'est-à-dire, il reflète vraiment Dieu. Il reflète le Père. Il manifeste qui est le Père. Et j'ai trouvé un exemple. Alors, pas un exemple paisible du tout, du tout, du tout. Les circonstances absolument pas paisibles. Alors là, il y avait une fois un bateau. Dans un bateau, il y a quoi ? Des marins. Il n'y avait pas que des marins, il y avait aussi des Romains et des Gaulois. Non, des Gaulois, on n'est pas sûr. Mais il y avait des Romains. Il y avait des Romains qui n'étaient pas des marins, qui n'étaient pas des marins romains, c'était des soldats romains, comme dans Astérix. Et il y avait peut-être des marins gaulois. On ne sait pas, peut-être, hein, ce n'est pas dit. Mais... Donc il y avait des marins, ça c'est normal dans un bateau. Il y avait des soldats, ça c'est un peu moins normal. Il y avait un troisième groupe de personnes, ni marins, ni soldats. Qu'est-ce qu'ils pouvaient bien faire sur un bateau ? Ah ben des passagers de croisière. Pas tout à fait, pas tout à fait, passagers de croisière quand même. Croisière spéciale. Croisière spéciale, c'était des prisonniers. Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà. Prisonniers, et puis, donc pas les circonstances idéales. Et on va, on va connaître le point de vue d'un des prisonniers. Bon, tout le monde a reconnu de quel prisonnier il s'agit. Paul, voilà. Prisonnier Paul. On va se mettre de son point de vue. Paul, il a la paix du royaume de Dieu en lui. Il va traverser des circonstances, mais abominables pour vous enlever la paix. Tout ce qu'il y a de plus abominable. La première chose, il n'est pas dans une croisière de plaisance autour de la Méditerranée, même s'il va à Crète et puis ailleurs. Il est dans des tribulations. Enfin, il est prisonnier. On ne sait pas trop dans quelles conditions, enchaîné, pas enchaîné. Ça ne devait pas être très drôle. Il avait quand même quelques amis avec lui, dont Luc. Il y avait sûrement Luc qui lui tenait compagnie, et peut-être d'autres. Mais enfin, il est prisonnier. Et puis, qu'est-ce qui se passe encore ? Autre chose, il écoute Dieu, et puis Dieu lui dit, enfin, en tout cas, la sagesse de Dieu en lui, lui montre qu'à un moment donné, il faut hiberner dans une île, parce que c'est l'automne, et l'automne, dans la Méditerranée, ça peut être terrible, dans les tempêtes. Donc, il faut hiberner. Il le dit, il le communique, la sagesse de Dieu est communiquée, et qu'est-ce qui se passe pas ? On l'écoute pas. Ah, c'est terrible. En tant que chrétien, vous donnez une parole de sagesse, elle n'est pas reçue, je peux vous dire, ça vous flanque une claque. Et puis vous dites, vous pouvez perdre la paix, hein, en disant, mais oh, on va au-devant de galères, c'est le cas de le dire, de galères terribles, de problèmes terribles. Ils ne m'ont pas écouté, qu'est-ce qu'on va se ramasser ? Alors que j'avais une parole de Dieu pour eux. J'ai ça aussi aux ceux qui ont le don prophétique. Ils donnent un don et puis ce n'est pas reçu. Ça vous chamboule, ça. Après, autre problème. Eh ben voilà, il y a la tempête. Hein. Et on se retrouve dans un environnement de désespoir. Tous dans le bateau sont absolument désespérés. Tous. Ils sont tellement désespérés qu'ils ne mangent plus. Et tout le monde, absolument tout le monde, est désespéré, même le chien. Et verset 20. Donc, un environnement absolument hostile, imaginez. Et je pense que certains parmi nous ont peut-être connu ça dans des boîtes où ça va fermer, par exemple. Tout le monde est complètement abattu, désespéré. Environnement très, très hostile. Tout le monde désespéré. Et puis, après, l'histoire continue. Autre circonstance, alors là, c'est les soldats qui disent « Hey, on ne veut pas qu'ils s'échappent, on va tous les tuer. » Vous imaginez ? On va tous les tuer, les prisonniers. C'est de quoi aussi mais perdre sa paix, mais il y a de quoi de perdre sa paix. Et puis enfin, pour parachever le tout, alors que la paix de Dieu agit, il y a eu délivrance, délivrance, délivrance. Et pour terminer, le comble du comble, Paul, gentiment, il aide les autres avec le feu de bois, vous savez, et puis paf, qu'est-ce qui se passe ? Le coup de la vipère. Hein ? Ah, une vipère, enfin bon. Voyez, et puis tout le monde autour, tu vas mourir, ça c'est sûr, tu vas mourir. Alors là, c'est clair, tu es châtié par Dieu et tout, enfin, vous voyez le langage. Et il y a eu toutes ces attaques qui voulaient voler la paix à Paul, et Paul a résisté. Il a tenu bon, et il a tellement tenu bon qu'il a sauvé et lui-même et les autres, c'est-à-dire en tout 276 quand même. Un seul homme, peut-être, bon, peut-être pas avec Luc, peut-être un peu plus, mais très peu d'hommes, une poignée d'hommes, et puis 276 personnes sauvées. Alors, qu'est-ce qui a fait que Paul a pu garder sa paix ? Alors, d'où lui vient cette paix ? Eh bien, comme je disais, il connaît Dieu, il connaît le projet de Dieu pour sa vie. Il savait que Dieu l'envoyait à Rome pour témoigner. Donc, il connaît le projet de Dieu, il connaît ce projet, donc il peut rester dans la paix, parce qu'il connaît le projet de Dieu. Si on connaît le projet de Dieu à long terme pour notre vie, on a une paix profonde, parce qu'on connaît, on sait qui est Dieu, et on sait qu'il ne va pas nous laisser tomber, et il y a ce repos qui est là. Ensuite, il garde les yeux fixés sur Dieu tout le temps. Il garde les yeux fixés sur Dieu. On peut lui faire confiance pour ça. Quelle que soit l'agitation extérieure, et il y avait une très, très, très forte agitation tout autour, ça c'est sûr. Ensuite, il entend la voix de Dieu. Alors là, je vais faire une révision de vacances. Quels sont les différents moyens d'entendre la voix de Dieu ? Allez-y. Comment on peut entendre la voix de Dieu ? Par quel moyen Dieu nous parle ? La parole, ça c'est le moyen royal. Ensuite, oui, la petite voix du cœur. Oui, ça, c'est la voix du cœur aussi. Alors ça fait deux moyens, la parole, la conviction personnelle, et puis il y en a plein d'autres. Hein. Voilà, des frères et sœurs qui nous parlent. Ensuite. Oui, la nature. Oui, oui. Et puis. Là, vous êtes passé sur naturel. Hein. Les rêves, les visions. Dans le cas de Paul, c'était même un ange, carrément. Et puis, bon, bah, ce que Claire a fait tout à l'heure, ou la prophétie, parole prophétique, hein, tout simplement. Et puis, bon, des choses peut-être moins connues, il y a le désir, un désir fort de Dieu, hein, pas de la chair, mais de Dieu dans nos cœurs. Ça peut être un moyen dont Dieu nous parle. Et puis, quelque chose que je vais vous apprendre peut-être, parce que c'est moins connu, c'est qu'on est chacun unique. Et Dieu va adopter, en plus de tous ces moyens-là, hein, c'est pas à la place, c'est en plus de tout ça, donc je répète, la parole, les rêves, visions, les anges, la prophétie, la voix audible, la voix intérieure, les frères et sœurs, le désir, la conviction. Au-delà de tout ça, il y a un moyen unique qui va utiliser pour nous parler. Et unique parce qu'il est propre à chacun de nous, on est tous différents, et il va avoir quelque chose de propre dans sa parole, il va nous communiquer ça à chacun de nous. Il va parler d'une manière que nous seuls, on comprend. Donc ça, c'est... Ça va être ce... Comment... Je vous donne un exemple. Par exemple, moi, j'aime beaucoup la littérature, les histoires. Eh bien, Dieu va me parler par des histoires, par des personnages de littérature. Je sais que Bénédicte, il lui parle par des formes et des couleurs, vous voyez ? Donc, il va utiliser ce que nous, on est. Il nous a créé de manière absolument unique. Eh bien, il va communiquer à nous avec cette manière unique. Et ça, c'est... On peut pas... Ça peut pas... C'est pas... comment dire ? C'est pas... ça ne peut pas être copié par quelqu'un d'autre. C'est unique. Et si vous n'avez pas découvert encore la manière unique dont il vous parle, à vous, ben je vous encourage vraiment à le faire. Et même au-delà de ça, il y a des manières très, très intimes dont il peut nous parler qui sont propres à nous. C'est vraiment le cœur à cœur. C'est lui et nous. Et c'est unique. Absolument unique. Donc, on ne peut pas dire, ben, moi, c'est comme ça. Toi, ça va être pareil. Pas du tout, du tout. Et je vous encourage à découvrir cette façon unique dont il vous parle. En tout cas, dans le cas de Paul, c'était un ange. Hein. Donc, il a entendu la voix de Dieu, bien sûr, il y a cru. Hein. Et puis, aussi, autre chose, dans le cas de Paul, ce qu'il a gardé aussi dans la paix, il connaît le cœur du Père. C'est un cœur de Père, Paul. Et non seulement il croit en Dieu, mais il a eu la foi de réclamer le salut de tous ceux qui étaient avec lui. Et là, il y a une dimension d'intercession qui est là. Et cette paix qui était en lui, elle s'est propagée à l'ensemble de son équipage. 276 personnes. Et je me dis parfois, mais un chrétien dans un bateau ou un avion, et puis il y a, je sais pas, un problème mécanique, ou il y a un attentat, ou il y a quoi que ce soit, un chrétien peut faire la différence. S'il a, alors je répète ça, connaître le projet de Dieu pour sa vie, le repos de la foi, garder les yeux fixés sur Dieu, connaître le cœur du Père et intercéder pour le salut de tous ceux qui sont avec soi, entendre la voix de Dieu, communion constante avec l'Esprit. Avec ça, on peut vraiment être porteur de paix, procurer la paix. Et c'est ce que Paul a fait. Il a vraiment procuré la paix. Et non seulement dans cette paix, vous savez, le terme shalom, hein, tiré en hébreu, c'est shalom, mais c'est la paix, mais c'est aussi beaucoup plus, c'est le salut, c'est tout, quoi, c'est la prospérité. Et dans cette paix, il y a eu la guérison quand même de tous les malades de l'île de Malte. Il y a un témoignage rendu au vrai Dieu, parmi tous ces marins idolâtres. Il y a vraiment quelque chose de fort. Et je crois qu'on est appelé, dans le monde troublé où on est, à procurer cette paix. Les circonstances autour de nous vont être de plus en plus agitées, mais on va diffuser la paix. On est appelé à ça. Il y a une paix qui est là, et qui va apporter la guérison, qui va apporter le salut, qui va être délivrance tout autour de nous. Et c'est pour ça que cette paix, elle est incroyablement importante pour nous. Et il faut absolument qu'on se batte, qu'on prenne position pour demeurer dans cette paix. Et je dis, un seul chrétien rempli d'esprit peut faire absolument toute la différence dans toute situation. Je pense à une entreprise en train de couler, je pense à une ville dans le marasme. Un chrétien peut faire la différence. Mais bon, il faut payer le prix, quoi. Et j'avais aussi, si j'ai le temps, Patrick, voyez-vous, j'avais quelque chose que j'ai découvert en préparant ce message. Il y a, si vous voulez, c'est pour, comment dire, connaître un peu mieux le cœur de Jésus. Jésus, c'est, vous savez, cette image que quelques-uns connaissent parce qu'elle a été donnée par June Lewis. C'est la poule qui veut rassembler les petits sous ses ailes, vous savez. Et vous connaissez cette histoire de la poule des prairies américaines. Alors je le dis pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, c'est une petite poule, pas les poules, hein, dans les grandes prairies américaines. Elles ont leur couvée, et puis parfois dans les grandes prairies américaines, vous avez des incendies. Et la poule, elle est beaucoup trop courte sur pattes pour courir et fuir l'incendie. Donc ce qu'elle fait quand il y a des grands incendies, elle rassemble toute sa couvée sous ses ailes et puis le feu passe. Et puis après l'incendie, ben, quand on arrive, on pousse le corps calciné de la petite poule et sous ses ailes, les poussins sont vivants. Et ça, c'est vraiment une image de Jésus. À la croix, sur lui est passée toute l'ardeur du feu de jugement, mais sous ses ailes, nous sommes à l'abri et nous sommes vivants. Vous voyez, c'est vraiment une image forte. Et Jésus dit dans Luc 13, « Comme une poule rassemble sa couvée sous ses ailes, j'ai voulu vous rassembler et vous ne l'avez pas voulu. » Je crois qu'on ne sait pas la tristesse qu'il y a dans le cœur de Jésus, c'est uniquement sous ses ailes. Lui, il a pris tout le jugement sur lui, mais c'est sous ses ailes uniquement qu'on peut trouver la paix, uniquement. Et Jésus, il sait l'ardeur du jugement qui va passer. Et il y a comme un cri, mes seigneurs, enfin, qui comprennent, qui doivent se mettre sous mes ailes, quoi. Et après, dans Luc 19, Jésus pleure sur Jérusalem, si tu eusses connu les choses qui appartiennent à ta paix. Et puis il dit, bah, tu n'as pas connu le jour où tu as été visité. Et puis après, il y a ce terrible jugement sur Jérusalem. Mais Jésus avait tout fait pour éviter ce jugement. Il voulait que les habitants de Jérusalem soient sauvés. Il voulait les mettre à l'abri sous ses ailes. Ils n'ont pas voulu. Et les ailes de Dieu, c'est quelque chose, c'est vraiment un lieu de repos, un lieu de paix. Psaume 91, il te couvrira de ses plumes et tu te réfugieras sous ses ailes. Il y a une très belle histoire qui nous parle de ça, du repos. C'est l'histoire de Ruth. Ruth, donc une Moabite, attirée irrésistiblement par le Dieu d'Israël. Et puis, Ruth, elle a travaillé très très dur, hein, vous connaissez l'histoire, elle glanait dans les champs, sous le soleil d'été en Israël, donc très très haute température, un travail très dur, et c'était vraiment pas du repos, quoi. Et à un moment donné, Naomi lui dit, écoute, je veux te donner du repos. Je veux vraiment te donner du repos. Et elle a écouté Naomi, on peut dire peut-être Naomi, c'est l'Esprit Saint, je sais pas comment on peut... Mais en tout cas, elle a écouté la voix de Naomi, elle a vraiment obéi pas à pas à ce que disait Naomi. Et Naomi disait, ma fille, j'aurais te procurer du repos pour que tu sois heureuse. Et elle est allée voir Boaz, et elle a demandé à Boaz, étends ton aile sur ta servante. Il y a ce mot aile, et en fait c'est le pan du manteau, et le pan du manteau, ça a à voir avec un signe de mariage, d'alliance. Et ça, c'est Jésus et nous. Il y a le manteau, les ailes de Dieu, ça nous parle de l'alliance, ça nous parle de mariage, de Jésus et de son épouse, et on est à l'abri sous ses ailes. Et c'est aussi Ézéchiel 16 qui nous dit, j'étendis sur toi le pan de mon manteau, et dans le terme littéral, c'est mon aile, j'étendis sur toi mon aile, je couvris ta nudité, je te fis un serment, je contractai une alliance avec toi et tu fus à moi. Donc, dans cette union avec Jésus, dans l'alliance, on a la paix. Mon alliance de paix ne chancellera pas. Tout peut s'ébranler autour de nous. On est appelé à être sous les ailes de Jésus à cause de l'alliance, parce qu'on est son épouse. Et cette alliance, elle est aussi due à la compassion de Dieu. Il nous prend sous ses ailes. Il a tout pris, toutes les difficultés, toutes les angoisses, toutes les ardeurs du jugement, il a tout pris pour que nous, on soit à l'abri. Non seulement que nous, on soit à l'abri, mais qu'on soit porteur de cette paix et qu'on le communique encore à d'autres, qu'on amène encore beaucoup, beaucoup d'autres poussins sous les ailes de Jésus, vous voyez. Et ça, c'est le grand appel de Jésus. Mais il y a vraiment ce cri dans le cœur de Jésus, il faut que tous viennent sous mes ailes, parce que le feu va passer et ça va être terrible, mais que tous viennent sous mes ailes. Et on a ces... Et il y a un autre aspect de la paix, c'est bien sûr l'homme de paix de la Bible, c'est Salomon, bien sûr, hein, Shalom, Salomon, le pacifique. Et sous son règne, une chose intéressante, sous son règne, le roi rendit l'argent et l'or aussi communs à Jérusalem que les pierres. Donc ça, c'est propre au règne de la paix. L'argent et l'or aussi communs que les pierres. Alors qu'est-ce que ça veut dire? On dit aussi que Salomon avait la paix de toutes parts. Qu'est-ce que c'est l'or et l'argent? Et alors, c'est étonnant parce que là, il y a quelque chose de prophétique parce qu'on est dans un temps où la paix va augmenter dans l'Église. Et j'ai repris ce que Pierre Daniel Martin nous avait dit au mois de mars. Et je vous relis quelques mots de ce qu'il a dit. Il a dit, bon, fin 2007, on va voir vivre des secousses. Hein, mais il voyait une rivière d'or et d'argent qui coule du trône de Dieu vers la terre. Donc c'est étonnant hein, parce qu'on a Salomon. Donc l'or et l'argent sont très communs, comme les pierres. Et puis, c'est la paix, hein, règne de paix. Et là, on a effectivement une rivière d'or et d'argent qui est annoncée, qui coule du trône de Dieu vers la terre. L'argent, ça nous parle de rédemption. Ça veut dire que le Seigneur va tout racheter dans nos vies. Si nous nous abreuvons à ce fleuve, tout va être racheté. Même nos erreurs passées, même tout va être racheté par cette rivière d'argent. Dieu va tout changer en bien pour nous. Et l'or, ça nous parle de la nature divine. Les chrétiens seront connus pour leur amour. La paix et la faveur seront sur nous. Et ça, c'est la rivière d'or et d'argent qui coule sur l'Église. Elle va couler de plus en plus fort sur l'Église. Et on veut ça. On veut ça. Seigneur, montre-nous là où on doit, où on manque de ta paix, ou là où il y a des tas de choses qui nous volent la paix, en nous vigilant. Ta paix, elle fait partie de notre héritage. Elle nous a été acquise très très chèrement par le sang de la croix. C'est notre héritage, Seigneur. Et tu veux qu'elle grandisse en nous. Parce que c'est la manifestation du royaume, et ton royaume est appelé à s'étendre. C'est de l'Église qui doit manifester le royaume, qui doit étendre ce royaume sur la terre, Seigneur. Alors, Seigneur Jésus, merci pour cette paix grandissante dans nos cœurs. Montre-moi, nous, les zones où cette paix n'est pas encore là, où il y a du travail encore à faire en nous. Mais Seigneur, donne-nous aussi ce cœur d'intercession, ce cœur de Jésus qui veut rassembler toutes les nations sous ses ailes. Seigneur, on veut avoir ce cœur de Jésus. Parce que le Père, il a ses ailes grandes ouvertes et il voudrait rassembler toutes les nations à l'abri. Parce que la grâce est triomphe du jugement, la miséricorde est triomphe du jugement. Seigneur Jésus, vraiment, conduis-nous sur des chemins de paix, qu'on soit ceux qui procurent la paix, même dans des situations extrêmement troublées, comme Paul, tu nous conduis dans un chemin de paix. Qu'on soit des artisans de paix, que là où nous sommes, ta paix soit ce qui écrase l'ennemi, cette paix qui remplit tout, cette paix dans laquelle il y a le salut, la délivrance, la guérison. Seigneur Jésus, merci de conduire ton peuple. On veut boire cette rivière d'or et d'argent qui coule de ton trône pour irriguer ton Église, Seigneur. Le monde en a besoin. Et on veut s'abreuver à cette rivière et nous-mêmes être porteurs de cette eau. Que l'amour, la paix, la justice, la joie abondent au milieu de nous, Seigneur. Amen.